pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. On comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Sécurité. Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
De l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bienvenue à cette édition de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Aujourd'hui, des nouvelles d'actualité sur les révoltes qui font le tour de ce monde et le tour de nos premières pages de journaux. Une vision alternative sur plusieurs situations politiques, notamment un reportage sur la Tunisie et deux entrevues sur l'Égypte. Également une chronique culturelle sur des pièces de théâtre sur la question de la maternité dans différentes situations, dans la situation du deuil ou de l'immigration. Et bien sûr, à la fin de cette émission, l'anti-hebdo pour savoir quoi faire de votre semaine si vous ne voulez pas rester stocké devant la télévision. Restez avec nous.
Bon matin, oui, Blandine, comme tu l'annonçais. En fait, la révolution tunisienne qui a débuté avec, qui a provoqué la chute du président tunisien Ben Ali le 14 janvier dernier et de laquelle on a parlé lors des deux dernières émissions, est en fait en train de provoquer une réelle onde de choc dans plusieurs pays de la région. Alors, dans les dernières deux semaines, des manifestations monstres ont eu lieu en Jordanie, au Soudan, en Algérie, au Yémen, en Égypte. Alors, je me propose de vous tracer un tableau très bref, seulement pour avoir un peu une ampleur du mouvement de protestation qui est en train de se développer dans la région, pour ensuite laisser les ondes à un reportage sur la révolution tunisienne et sur l'actualité en Égypte. Alors, très brièvement, au Yémen, le 18 janvier, la ville de Sanaa a été le théâtre d'une manifestation d'un millier d'étudiants qui appelait à un changement démocratique et, je cite, « les peuples arabes à se révolter contre leurs dirigeants ». Puis, le 27 janvier, ce sont au moins 16 000 personnes qui ont manifesté à l'appel de l'opposition, réclamant le départ du président Ali Abdallah Saleh, président du Yémen depuis maintenant 32 ans. En Jordanie, le 14 janvier, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour protester contre l'inflation et la politique économique. Quelques jours plus tard, un sit-in était organisé à Amman, où 3000 personnes ont participé pour appeler à la propagation de la dite révolution tunisienne. D'autres manifestations comptant quelques milliers de personnes ont eu lieu les 21 et 27 janvier en Jordanie. Du côté du Soudan, le 16 janvier, des partis d'opposition réclamaient la fin du régime totalitaire du président Omar el-Béchir et ont demandé la démission du ministre des Finances, jugé responsable de la hausse des prix des denrées alimentaires. Au début du mois, des manifestations étudiantes, toujours au Soudan, contre la hausse des prix ont été réprimées par la police. Un cas mortel d'immolation a été revendiqué pour dénoncer le régime totalitaire du Soudan. Ce samedi, des centaines de jeunes ont manifesté à Khartoum dans le cadre d'une journée nationale de protestation anti-gouvernementale. Au Oman, petite monarchie du Golfe, où les manifestations, faut dire, sont rarissimes, ce sont près de 200 personnes qui se sont rassemblées le 17 janvier dernier pour protester contre la cherté de la vie. Notons qu'au Maroc et en Mauritanie, des cas d'immolation ont également été reportés en tant qu'acte de protestation contre le pouvoir. En Algérie, au début du mois, les 5 jours d'émeutes contre la vie chère ont été sévèrement réprimés, causant la mort de 5 manifestations et plus de 800 blessés. Le 22 janvier, la police nationale a empêché la tenue d'une manifestation dite pour la démocratie à Alger, causant une 20aine de blessés. On compte 2 décès par immolation et 7 tentatives depuis le 14 janvier. Donc, en Algérie, malgré l'état d'urgence décrété par le gouvernement, la Coordination nationale pour le changement et la démocratie, c'est une coordination qui est née le 21 janvier dans la foulée des émeutes du début janvier. Cette coordination d'opposition a annoncé une manifestation monstre. Elle attend 1 million de personnes le 12 février pour exiger le départ du système. Alors oui, on ne parle pas du départ du régime, mais bien du départ du système en Algérie, parce que il faut dire que dans le cas de l'Algérie, contrairement à la Tunisie, où le pouvoir était détenu en totalité par Ben Ali, en Algérie, le pouvoir est partagé ou co-géré, si on veut, par la vitrine politique civile, c'est-à-dire le chef de l'État et son clan politique, et par l'armée, qui est représentée en Algérie par le DRS, qui sont en fait les services de renseignement tunisiens, qui sont en ce moment très dénoncés dans la presse algérienne comme étant une véritable police politique. Pour ce qui est de l'Égypte, dont on parlera plus longuement durant cette émission. L'Égypte est actuellement en pleine ébullition. Les manifestations ont débuté le 25 janvier pour demander la fin du régime du président Hosni Moubarak au pouvoir depuis 1981. Ces manifestations ont été précédées de plusieurs cas d'immolation. Au moins 1000 personnes ont été arrêtées et au moins 5 manifestants ont été tués par les balles de la police nationale. Samedi dernier, le chef de l'État égyptien a dissous le gouvernement, imposé un couvre-feu et annoncé des mesures sévères contre les manifestations. L'accès à Internet a été suspendu sur tout le territoire. Faut dire que selon la presse internationale en ce moment, c'est la première fois qu'une telle mesure est imposée. C'est la première fois dans tous les pays au monde qu'on coupe ainsi l'accès à Internet sur tout un territoire national. En plus, la chaîne Al Jazeera a perdu ses droits de diffusion sur le principal réseau satellite égyptien. Alors, malgré le couvre-feu les menaces du gouvernement contre les manifestations, les rassemblements ont néanmoins repris dans plusieurs villes du pays. Et on est en droit de s'inquiéter de la réaction de l'armée, qui est en Égypte historiquement très liée au président et au clan politique, d'autant plus qu'hier, la chaîne Al Jazeera a donné la parole successivement à 2 personnalités égyptiennes, M. Omar Afifi, qui se trouve à être un ancien colonel de la police égyptienne, et M. Loï Dib, un militant des droits humains. Ces 2 personnes ont déclaré à la chaîne Al Jazeera hier, donc, détenir des informations de première main selon lesquelles 3 avions israéliens en provenance de Chypre ont atterri tôt ce dimanche à l'aéroport militaire du Caire pour livrer du matériel militaire sophistiqué d'Israël, dont je vous lirai pas toute la liste, mais dans ce matériel militaire livré par Israël à l'Égypte, il y a des pistolets télescopiques spécialement conçus pour des snipers. Donc, comme le dénonçait le militant de droits humains et l'ancien colonel de la police égyptienne, on craint que l'armée égyptienne utilise ce matériel israélien pour réprimer dans le sang les manifestations en Égypte. L'ancien colonel de la police et le défenseur des droits humains ont lancé donc un appel de détresse en direction de l'opinion publique internationale en avertissant qu'un bain de sang planifié entre Israël et le régime de Moubarak en Égypte est en préparation contre le peuple égyptien pour le punir de s'être soulevé. Une situation donc très inquiétante. Blandine, est-ce que...
Alors, est-ce que tu peux nous présenter le reportage sur la Tunisie que tu nous as préparé?
Oui, alors on vous a parlé beaucoup de la Tunisie lors des dernières émissions. Il faut savoir que la révolution se poursuit, mais dans une complète incertitude. Les manifestations continuent un peu partout dans le pays pour exiger cette fois le départ du gouvernement de transition. Et faut dire qu'en coulisses, les hommes de main de l'ancien régime continuent à s'activer. Ils détiennent toujours la réalité du pouvoir avec le chef de l'État par intérim, le premier ministre et tous les ministères de souveraineté, donc autant le ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, de la Défense, etc., sont aux mains des détenteurs de l'ancien régime. Donc, c'est sous couvert d'une transition légale qui respecterait la Constitution, une Constitution qui a été élaborée, qui a été mise par Ben Ali, donc l'ancien président. Ces gens-là se maintiennent au pouvoir et maintiennent l'ancien système sécuritaire en dépit d'une contestation populaire qui ne faiblit pas. Donc, c'est vraiment à suivre ce qui se passe en Tunisie en ce moment. La révolution continue. Pour vous en parler, on vous a préparé un montage sonore qui a été fait à partir d'un entretien avec Habib Ibrahim, des militants à l'Union des travailleurs arabes. C'est un entretien qui avait été réalisé par l'émission Actu des luttes de Canal Sud, une radio communautaire française. Ça va être entrecoupé d'entrevues avec Omar Boisi, qui est reporter à la radio libre et clandestine Kalima Tunisie. Et pour clôturer ce montage sonore en beauté, on va vous laisser avec la chanson de El General qu'on vous a fait écouter l'autre fois, qui se trouve être un militant tunisien qui a d'ailleurs été arrêté dans les derniers jours puis libéré et qui a fait cette chanson qu'il a baptisée Mouvement tunisien 2011 tout simplement pour soutenir les manifestations actuellement.
Puis on commence par une petite pause musicale avec La Rage du Peuple de Kenny Arcana sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous écoutez En bas à gauche.
Vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et aboli la rage, car impossible et cette paix sans voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monstre tout détruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton, aurait-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes, mais dans quel monde a Colombé parti, la rage, d'être autant balafré par les piquants des normes, et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort, on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout, et là on veut bien nous mener la vie, on pourra plus se taire, ni s'asseoir, dorénavant, on tiendra vrai, tant qu'on a la rage, le cœur et la foi, on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout, et là on veut bien nous mener la vie, rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste, révolté, la rage, parce qu'on choisit rien, et qu'on subit tout le temps, et vu que leurs choix sont bancales, et bien, qu'il y fout le camp, la rage, car irréparable, s'entasse depuis un bout de temps, la rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier, la rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste, la rage, combien des notes finiront par retourner leurs fesses, la rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression, la rage, car c'est la merde, c'est que ce monde y adhère, et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre, la rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé, la rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé, la rage, car ce monde ne nous correspond pas, nous nourrissons de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas, où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On a la rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra vrai, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage, d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage, car ce monde voit rouge, mais de cris ça y s'entoure. Et parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour, tant de traces à bord ancêtres. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états risque de vérité pouvoir changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change, à me faire regarder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition.
enjeux et mobilisation.
En 1956, on a volé l'indépendance du peuple tunisien. Et en 2011, on veut voler cette révolution au peuple tunisien.
Ce qui a fait cette révolution, c'est premièrement les jeunes populaires, les désirités, comme on les appelle nous chez nous, et c'est les gens qui ont surtout été à l'école, ils ont fait des études supérieures et ils ont eu leur certificat et ils ont laissé sur la route pas de travail et surtout beaucoup de mépris. Et c'est une atteinte à leur dignité qui les a poussés à ne pas accepter cette injustice et se révolter contre ça. Comme frère Bouazizi qui s'est immolé par le feu, c'est surtout une atteinte à sa dignité qui ne l'a pas acceptée. Et la grande majorité des jeunes et des moins jeunes n'ont pas accepté ce qui se passe sous le régime de Ben Ali, un régime mafioso, un régime de mafia.
Ce soulèvement est vraiment spontané, vraiment. Il n'y a, aucun parti qui est derrière, aucun, ni même les syndicalistes, hein, puisqu'on sait très bien que la centrale syndicale, de par sa direction, hein, est assujettie au régime. Hein. Mais par contre, les responsables régionaux de l'UGTT sont beaucoup plus libres. Ce soulèvement a fait que les voix se sont libérées et que maintenant les centrales syndicales régionales bougent. La base ou l'ensemble des syndicalistes appartiennent à des courants différents, hein, beaucoup de courants qui sont différents, essentiellement de gauche. La base de l'UGTT a débordé et donc c'est eux actuellement qui ont repris en quelque sorte le flambeau de l'UGTT pour faire bouger la centrale.
Il faut passer à l'acte, il faut que cette révolution ne soit pas confisquée par d'autres. Malheureusement, le risque est grand. Actuellement, la Tunisie a besoin de tous les militants pour essayer de poursuivre la vigilance et d'essayer d'aider par tous les moyens possibles cette révolution que beaucoup d'ennemis le guettent et malheureusement le régime fasciste et mafieux de la Tunisie. On continue de tirer sur le Tunisien dans les rues, dans les villes. On brûle tout ce qu'il y a pour essayer de brûler la terre et faire monter aux Tunisiens. Voilà, le régime tunisien de Ben Ali était bien, il vaut mieux le garder. C'est à nous, les militants, d'essayer de mener la lutte contre les partis politiques amis de Ben Ali et malheureusement beaucoup et qui essayent toujours de juger ce qui se passe en Tunisie d'un point de vue néocolonialiste et qui essaye toujours de mettre la main sur la petite Tunisie pour essayer de leur donner des leçons. Faites ça, on va vous aider à mieux gérer la sécurité et ça c'est un vrai problème et il faut une force tunisienne ici organisée de base je veux dire, qui s'oppose à ça et qui dit non, on n'accepte pas ça. Et c'est à nous de montrer qu'on est organisé comme notre peuple.
Que le peuple décide. On n'a pas à accepter la décision de Washington, de Tel Aviv, ou de Paris, ou de Berlin, ou de Rome. C'est un ensemble, c'est intégral. C'est global, le problème il est global. La souveraineté nationale, elle est sur la monnaie. Elle est sur l'alimentaire, enfin l'agriculture, c'est-à-dire que tout ce qui est stratégique, c'est au peuple tunisien, à la jeunesse, de décider de ce qu'ils veulent ou ils veulent pas. Certes, c'est difficile, des pressions internes, puisqu'il y a des contradictions internes, et aussi des pressions extérieures. Les voisins, Kadhafi, deux déclarations qu'il fait, et il va tout faire pour faire la contre-révolution, parce qu'il a peur de son trône. Faire revenir le bourreau, puisqu'ils lui ressemblent, ils sont les mêmes. Donc cette vigilance et cette défense maintenant, il faut défendre cette révolution populaire. Encore une fois, j'insiste, ce n'est ni une révolution du jasmin, ni une révolution orange à la CIA. C'est la révolution du peuple, de la jeunesse, des déshérités, des démunis. Et ceci est très important.
Ce qui se passe en Tunisie, il a une résonance immédiate et totale sur la région, surtout sur les pays du Maghreb. Et que malheureusement, en France et l'Amérique et les pays européens, Ben Ali, il était leur ami parce qu'ils disent que c'est un rempart contre l'intégrisme, contre l'islamisme. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait ça aussi pour éviter, pour empêcher les peuples de s'émanciper et aussi de prendre, faire la révolution pour sortir du néocolonialisme et pour sortir aussi des régimes mafieux et dictatoriaux qui sont encore, tu vois, au Maghreb et tout ça.
Le véritable bailleur de la Tunisie, c'est l'Union européenne. Et cette Union européenne, évidemment, poussée un peu, puisque la France coloniale, c'est une ancienne protectorat de la Tunisie, est un ancien protectorat de la France. La France, derrière, évidemment, poussée à ce que on aide la Tunisie, on vienne en aide à la Tunisie, et on insuffle à chaque fois, évidemment, beaucoup d'argent, énormément d'argent, qui, cet argent-là, bien sûr, une partie est allée, bien sûr, vers les infrastructures et vers le développement de la Tunisie, mais pas tout, puisque cet argent-là, on savait très bien aussi que beaucoup de cet argent-là était gaspillé, n'était pas utilisé à bon escient, et que, évidemment, les Tunisiens n'en profitaient pas. Les pays du bassin méditerranéen n'ont pas le même traitement de la part du Parlement européen que les pays africains ou subsahariens. Donc c'est vrai que l'Afrique, en quelque sorte, pour le Parlement européen, est une tâche. Donc on essaye, mais on ne fait rien, en fait. Hein. Par contre, le bassin méditerranéen joue énormément un rôle de rempart contre l'immigration, contre le terrorisme, contre beaucoup de choses. Et donc, on essaie d'aider beaucoup plus ces pays méditerranéens, sachant que derrière, on sait aussi pertinemment que derrière, ce sont des régimes dictatoriaux, ce sont des régimes qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui ne représentent pas les peuples.
Le fait de poser le problème barrage contre l'intégrisme et l'islamisme, nous, on ne marchera pas. Ce n'est pas ça. C'est un faux problème. Et le vrai problème, c'est l'émancipation de nos peuples et l'émancipation des masses populaires dans nos pays.
Bon, il faut dire que le 11 septembre 2001 a été une aubaine extraordinaire pour ces pays. Ça a été carrément une installation de politique pour montrer que on est des remparts contre l'islamisme et on va vous aider. Mais en fait, derrière, on a accaparé les richesses du pays, on a accaparé tout ce qu'il fallait pour la Tunisie, tout ce qu'il fallait donner et qu'on ne donnait pas. Et puis, maintenant, on se retrouve devant une situation où pratiquement le roi, avec toute sa famille autour, qui a accaparé pratiquement, 80% de l'économie tunisienne, où ils n'ont rien laissé, pratiquement rien du tout. Toutes les entreprises les plus importantes de la Tunisie sont détenues à part importante par la famille du président Ben Ali, la famille Trabessi. L'Union européenne a laissé faire, la France a laissé faire, sachant qu'on se disait ils sont le rempart contre le terrorisme ou le rempart contre l'immigration clandestine, etc.
Lorsque l'on voit dans les administrations, les institutions, des responsables, du haut fonctionnaire de l'ancien régime, enfin du régime RCD, qui sont encore en place. Comment peut-on faire en sorte qu'on tourne la page? Impossible. Il faut encore une fois se débarrasser de manière définitive, grâce à la volonté populaire, grâce à l'organisation à la base, quartier populaire, conseil populaire, avec les élections de leurs propres délégués. Ce sont eux qui doivent élire leurs délégués et leur cahier de doléances, de revendications. Petit à petit, et on apprend à la base la démocratie. Et là, faut qu'on laisse le peuple tunisien faire réfléchir à son développement comme il veut, son patrimoine, sa civilisation, sa culture, ses liens avec les autres peuples arabes et africains.
هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحزاب 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم في المتراك تاكاتك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمه لا هذا القانون اللي في الدستور نسخه وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف برطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف في اللحلاش تضرب في نسال ما تحاجبين زعما ترضى هالبنتك عارف كلامي بك العين عارف مدام كفو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عباره واحد من صغارك احكي معاك بالصفرانس انا عايشين كل كلام باش ترى الشعب عايشين الذل وذاقوا من كاس عذاب رئيس البلاد شعب بلاد وشعب من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو وناس
الناس ما قادش في البيت هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح ها بلاد شعب بلاد وشعبات من البلاد لاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو الناس ما قادش في البيت هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح
ها بلاد عيست بلاد
وطني يحكي من غير خوف انا حكيت لك انا عارف اللي نهايتي كالكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلام برطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كالاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حريه التعبير ريت منها كان كلام سميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاكا تشوف يوم البلاد ولا الصحراء مقسومه على زوج ظروف سرقات بالمكشوف بالخرم بالكل البلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون مهل العباد برشا فلوس كانت ماشيه مشاريع وانجازات مدارس صومي صحات بناءات وتعديلات لكن ولاد كلاب فلوس الشعب عباو البلوش سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش نعرف لي برشا كلام في قلب الشعب ما يوصلش كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش عايز البلاد شعب بلاد وشعب من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح ها بلاد شعب بلاد وشعب من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط المشاكل والسفرانس رئيس البلاد رئيس البلاد رئيس البلاد رئيس البلاد شعب البلاد وشعب من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح ها بلاد شعب البلاد وشعب من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم
Alors, vous écoutiez la chanson Mouvement tunisien 2011 qui a été faite par El General, un rappeur et militant tunisien. Alors, il a dédié cette chanson aux manifestations, à la révolution populaire qui a lieu en ce moment en Tunisie. On va continuer l'émission après ces courtes pauses en parlant des...
Cherchez-vous un travail immédiatement? Travailglobal.com. Appliquez aujourd'hui, travaillez demain. Travailglobal.com ou 514-666-1562. Secrétaire, journalier, manufacturier, voyez les emplois sur travailglobal.com ou 514-666-1562. 1562.
Adoramique!
Montre-toi donc, diplodocus, babouin, mégalomane, flibustieux!
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale, aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi. Et tu auras ta vengeance.
Les mutants, non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi, dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Ici Sam Proof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Vous êtes à la recherche d'exotisme et de bien-être?
Radio Centreville vous sert un savoureux cocktail musical.
Passez votre commande en consultant notre programmation au www.radiocentreville.com.
Radio Centreville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Les ondes de Radio Centreville, 102.3 FM, vous écoutez En bas à gauche. Alors, on continue avec deux entrevues qui ont été faites hier sur la situation en ce moment en Égypte. Alors, une première entrevue avec Sama qui anime depuis des années une émission le mercredi après-midi sur les ondes de notre radio voisine CKUT, qui fait l'actualité du Moyen-Orient, de la Méditerranée toutes les semaines. Et donc elle est d'origine égyptienne et se tient au courant. Alors on a fait une entrevue avec elle hier. Donc elle nous parlera des mobilisations qui ont lieu notamment aujourd'hui en se référant à demain. Et on écoutera ensuite une entrevue avec Antoine alias Anarkat, un blogueur qui est en communication avec de nombreux geeks et autres gens de l'internet en Égypte qui, comme on vous le disait précédemment, n'ont plus internet depuis le 27 janvier. Alors bonne écoute. Alors merci d'être avec nous pour nous présenter un petit peu ce que toi tu connais de la situation actuelle, puis un petit peu au-delà des gros titres.
Oui, au-delà des gros titres, je peux te dire, Blondine, que demain, ça va être une très grande journée. Les manifestants attendent 1 million de personnes au centre du Caire, au Midan Tahrir, et aussi un autre million à Alexandrie pour justement dire non à la dernière offre de Hosni Moubarak quand il a dit qu'il va remanier le gouvernement. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec les mêmes personnes. Certains disent même qu'il s'est débarrassé de 2 ou 3 membres de son cabinet antérieur qu'il ne voulait pas. Donc il a fait des promesses, mais ces promesses viennent un peu trop tard. Et les manifestants, tous les Égyptiens d'ailleurs, ne sont pas d'accord sur le nouveau cabinet. Entre autres, je peux vous citer que, par exemple, il a nommé un nouveau ministre pour les communications, et ce ministre, pour commencer sa journée, il a coupé tous les services de train à travers tout le pays. Donc il n'y a eu aucun, train qui a démarré aujourd'hui en Égypte. L'accès Internet est toujours bloqué, donc on ne communique pas. Et puis on voit mal comment on peut faire des progrès pour plus de démocratie quand il n'y a pas. Ils commencent par couper tous les canaux de communication. Ils ne veulent pas entendre ce que le peuple égyptien veut exprimer, d'autant plus que maintenant El Ghezira a vu ses journalistes, on les empêche de faire leur travail, on a aboli leur licence comme journaliste, on a fermé les bureaux de El Ghezira. Et si vous regardez la télévision égyptienne, on peut dire que ça ne représente vraiment pas la réalité. D'après nos contacts, ce qu'on voit sur les autres canaux de communication et puis ce que nous aussi recueillons comme nouvelles de nos parents et de nos connaissances en Égypte.
Et sur le contexte un peu, parce qu'on évidemment ici on entend parler de la situation politique égyptienne uniquement quand il y a ce genre de choses spectaculaires, on en entend rarement parler.
Oui, mais certainement. Ça, c'est évidemment spectaculaire. Il y a eu d'autres manifs, mais qui n'avaient pas l'ampleur de cette dernière manif. Il y a eu des manifs, par exemple, d'ouvriers dans la ville ouvrière de Mahalla el-Kobra. Ça, ce sont les usines de tissage. Et il y a eu d'autres manifs, par exemple, par les juges au temps des élections en 2007. Par contre, ça, c'est une manif. C'est vraiment une, je ne dirais pas une révolte, mais une révolution, parce que ça rejoint toutes les couches de la société égyptienne. Ça rejoint les syndicats, ça rejoint les juges, ça rejoint les étudiants, donc jeunes, moins jeunes, tout le monde, femmes, hommes, tout le monde est descendu dans la rue. Et même comme il y a un couvre-feu et que les gens ne peuvent pas se déplacer à partir de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 8 heures du matin, alors il y a eu un appel que ceux qui ne peuvent pas venir au centre-ville, justement à Médane et Tahrir, affichez votre mécontentement et votre soutien pour les manifestants sur les balcons, là où vous êtes finalement. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'au centre pour appuyer la manif. Je ne dirais pas même que c'est une manif, c'est une révolution, parce que tout le monde participe. Et nous ici, comme Égyptiens à Montréal, nous sommes très contents, nous les appuyons, nous avons des lignes de piquetage voyage à tous les jours de 5h à 6h devant le consulat égyptien qui est situé au 1000 de la Gauchetière Ouest au centre-ville de Montréal.
Il y a d'ailleurs une manifestation samedi passé?
Il y a une manifestation samedi passé. Il va y avoir une autre samedi qui s'en vient. Au fond, ce qu'on entend, c'est que les manifestants disent que ce vendredi en Égypte, ça va être vraiment une journée charnière. Parce que maintenant, la demande principale, c'est que M. Moubarak quitte le pouvoir, qu'il parte, qu'il dégage. Donc, les manifestants ne vont pas accepter autre chose. Ce qui est arrivé, Blondine, c'est que des choses se sont précipitées très vite. Les demandes aussi ont évolué. C'est-à-dire, au départ, nous voulons des élections, disons, justes. On voulait aussi que l'état d'urgence qui a été imposé depuis 1981 en Égypte et qui empêche les Égyptiens de se réunir et de manifester de façon pacifique. On a demandé que cet état d'urgence soit aboli, mais ça n'a pas été le cas juste. Et maintenant, la seule demande, c'est que Moubarak parte. Ensuite, on va s'organiser, on va voir qu'est-ce qui va se produire. Les manifestants envisagent un gouvernement de transition qui va inclure tous les partis politiques. Il n'y a pas de grand parti d'opposition à part les frères musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils vont avoir une monopole sur le gouvernement ou sur le pouvoir. Il y a tellement maintenant de personnes indépendantes qui sont connues, qui sont réputées, qui sont éligibles pour être inclus dans ce nouveau gouvernement de transition. Mais on veut vraiment que Moubarak parte en premier, et ça, c'est la première demande.
Et merci beaucoup, Sama, d'avoir été avec nous comme ça, dernière minute, pour nous donner quelques nouvelles. Puis j'imagine on peut aussi en entendre parler plus amplement à Caravane, qui est mercredi après-midi,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, Caravane, de 2h à 3h l'après-midi. Certainement, on va avoir plus de nouvelles, surtout que demain, ça va être une journée très importante dans la lutte de la démocratie en Égypte.
Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on t'écoutera mercredi de 2h à 3h sur les ondes de sécurité 90.3 FM Caravane pour avoir encore plus d'informations de la part de Sama. Merci beaucoup.
Merci, Blondine. Au revoir.
Au revoir. Pour continuer avec Antoine à parler de l'Égypte et donc de la situation en ce moment, mais aussi des aspects un peu techno là, de ces révolutions que certains esprits cyniques appelleront des révolutions Facebook.
Bonjour, ça va bien?
Oui, et toi?
Oui, donc c'est ça, c'est assez intéressant qu'est-ce qui s'est passé en Égypte du point de vue technologique. C'est la première fois en fait qu'un pays se déconnecte de l'Internet au complet en fait, dans l'histoire de l'Internet. Donc depuis environ le 27 janvier, depuis 4 jours, il y avait pendant un certain temps là, plus que 90% de l'Internet en Égypte qui était pas joignable. Donc 90% des gens qui n'avaient pas accès à Internet. En fait, il y avait seulement un fournisseur qui avait encore accès, qui s'appelait le groupe Noah. Et c'est seulement des spéculations là, de pourquoi c'est resté en ligne, mais disons seulement que le groupe Nord, c'est eux qui fournissaient l'accès Internet à la bourse égyptienne et à d'autres grosses compagnies de ce genre-là. Donc on se doute que c'est cette raison-là de pourquoi il est encore en ligne. Qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, aujourd'hui, là, il y a quelques minutes, en fait, c'est que même ce fournisseur-là a été bloqué complètement de l'Internet. Donc, qu'il y avait déjà pas beaucoup d'accès à Internet en Égypte depuis une semaine. Maintenant, c'est plus rien du tout. On a déjà mentionné sûrement que les téléphones cellulaires, les textos, tout ça est bloqué aussi. Une des choses que les gens essayent de faire présentement, c'est de se connecter avec avec des plus vieilles technologies, donc les bons vieux modems là, 50K qui font du bruit quand on se connecte. Donc les gens essayent de se connecter avec ça présentement et semblerait qu'il y a des moyens de se connecter, particulièrement en faisant des appels à l'international. Donc vu qu'il y a certaines lignes téléphoniques sur le terrain, là, des lignes traditionnelles, là, si on peut dire, ou des landlines qu'on donne en anglais, qui marchent encore, les gens peuvent appeler vers l'extérieur du pays puis se connecter sur l'Internet par le téléphone. Mais c'est vraiment juste ça qui marche. Et mais bien sûr, les téléphones satellites, ce genre de choses-là, où est-ce que les gens peuvent quand même se connecter, mais ça prend des technologies beaucoup plus avancées qui sont pas disponibles au commun des mortels en Égypte, finalement.
Puis c'est quoi la justification politique et sociale qui est donnée à cette coupure d'Internet? Est-ce qu'il y a une grosse portion de la population égyptienne qui avait accès à Internet de façon générale?
En fait, je sais pas exactement c'était quoi la quantité de personnes qui avaient accès à Internet, mais présentement, il n'y a aucune justification. Normalement, qu'est-ce qui s'était passé en Tunisie ou qu'est-ce qui s'est passé en Iran ou dans d'autres régimes qui ont décidé de censurer l'Internet, c'est que certains sites étaient bloqués. Donc, par exemple, on avait bloqué YouTube en Tunisie. On a souvent bloqué Twitter ou Facebook, des choses comme ça. En Tunisie, il y avait volé les mots de passe des utilisateurs sur Twitter, sur Facebook et Gmail. Là, c'est pas seulement certains sites sont bloqués, c'est tout l'Internet. Donc, dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que si vous allez essayer maintenant d'aller visiter les sites web du gouvernement égyptien, ils sont simplement plus disponibles. Donc, le pays entier fait couper de l'Internet. En tout cas, le gouvernement a bloqué l'Internet du pays. Ce qui est assez, comme je dis, c'est vraiment une première. C'est très particulier qu'est-ce qui s'est passé là.
Puis est-ce que, spontanément, de mes petites bases de sociologie, ça me semble être un drôle de moyen de contrôle de foule. Si des gens ne sont pas sur Internet, ils vont aller dans la rue?
Mais c'est ça que... C'est ça que je me dis aussi, mais en fait, je pense que l'État essaie de faire ici, c'est d'empêcher les gens de s'organiser de façon plus concrète. Donc là, les gens, en fait, ils brisent le couvre-feu, ils sortent manifester, et tout ça, ils sortent dans la rue, sauf qu'ils peuvent pas s'organiser de façon directe, comme ça se faisait peut-être ailleurs, de dire, bon, on va à tel endroit, là, on va manifester devant tel truc. Donc, j'imagine que ça doit servir à contrôler des actions plus organisées qui pourraient peut-être servir à reprendre le pouvoir, mais en même temps, moi, je pense que c'est complètement futile, puis ça fait juste enrager les gens encore plus. Et ça fait qu'effectivement, ils sortent dans la rue. En fait, ce que j'ai compris, c'est que quand le couvre-feu arrive, c'est comme le moment où est-ce que les gens sortent dehors et vont commencer à manifester. Donc, le couvre-feu, je pense, avant, c'était à 4 ou 5 heures. Maintenant, c'est rendu à 3 heures. Et l'heure où est-ce que les gens manifestent, c'est rendu 3 heures. Les gens, ils sortent puis ils défient le couvre-feu ouvertement. J'ai aussi entendu que l'armée avait pris le côté des manifestants, avait directement appuyé les manifestants. Donc, j'ai l'impression que on est dans une fin de régime en Égypte et les tentatives de bloquer l'Internet sont à ce stade-ci complètement futiles. Je vois pas du tout qu'est-ce que ça peut amener au gouvernement en place.
Marie-Ève, tu avais une question?
Oui, mais justement, c'est un peu par rapport à ce que ça pourrait amener pour le gouvernement. Est-ce que ça pourrait être une façon aussi de couper les mobilisations avec l'international, dans le fond, les gens qui se mobilisent là-bas avec l'appui international qu'ils pourraient avoir à travers Internet, justement?
En fait, une des choses que ça fait très directement, c'est que ça empêche les gens sur le terrain de rapporter les abus policiers ou les crises majeures de gens. Donc, la coupure d'Internet du 27 janvier, c'est peut-être simplement une coïncidence, mais c'est sorti tout de suite après que Associated Press ait diffusé une vidéo de manifestants qui se faisaient abattre par balle dans la rue. Donc, la vidéo est sortie le 27, puis en dedans d'une heure, toute l'Internet, ou presque toute l'Internet était bloquée. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être ça là, qui essaie de faire. Donc, ils ont arrêté 6 journalistes d'Al Jazeera. Ils essayent de bloquer les gens de rapporter les morts qu'il y a dans la rue. Je pense qu'on parlait de... J'entendais Democracy Now! Qui parlait de 120 manifestants tués par la police. Donc, c'est majeur. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils essayent d'empêcher la communauté internationale d'être mise au courant de ça.
puis sur la question de quel type de mouvements sont en train de manifester dans certains médias de masse, on a observé plusieurs types d'analyses. T'entends dire que c'était pas tellement un mouvement de libération, mais que c'était des mouvements religieux qui prenaient la tête de ces mouvements-là. Est-ce que tu as eu des informations alternatives?
Donc évidemment c'est ça. Ce que les compagnies comme CNN et d'autres présentent, c'est l'espèce de spectre de la révolution iranienne, de dire que ça va être des islamistes fondamentaux qui vont prendre le pouvoir en Égypte puis débalancer l'équilibre géopolitique que les Américains ont si savamment installé au Moyen-Orient. En fait, la réalité, c'est que c'est un mouvement qui est pas religieux du tout. Les chants qu'il y a dans les rues, c'est musulmans et chrétiens, on est tous égyptiens. C'est pas un mouvement fondamentaliste musulman qui est en train de se tenir là. C'est un mouvement citoyen. Comme on disait plutôt, c'est une révolution où est-ce que tout le monde participe. Et puis, je pense que le spin que les médias de masse essayent de mettre là-dessus est complètement honteux parce que sur le terrain, c'est pas du tout ça qui se passe. Il y a le Brotherhood musulman, je pense que ça s'appelle comme ça, qui est présenté comme la chose là, qui va prendre le pouvoir, mais en fait le Muslim Brotherhood n'était pas là au début, et c'est pas eux qui organisent la révolte présentement. C'est une révolte citoyenne qui n'a pas de chef, qui n'a pas de leader derrière ça. C'est des gens qui sortent dans la rue, qui s'organisent par eux-mêmes, qui organisent des milices de quartier pour défendre se défendre contre les gens qui pillent les maisons, parce que la police a déserté les rues. Donc les gens s'organisent par eux-mêmes, et c'est une véritable révolution qui est en train d'avoir lieu en Égypte, malgré tout ce que les médias de masse veulent bien nous faire croire.
Puis est-ce que tu as des sites d'information alternatives à nous proposer, des blogs d'autres endroits pour justement rester informé avec un vaccin anti-CNN?
Donc, j'ai déjà mentionné democracynow.org, qui ont une couverture exceptionnelle parce que, justement, ils ont un journaliste sur le terrain qui rapporte des informations tous les jours et qui, lui, ben, justement, est égyptien, donc il est proche des gens là-bas. C'est assez intéressant, cette perspective. Sinon, je suis les Twitter, en fait, c'est niaiseux, mais il y a beaucoup d'informations qui passent là sur le tag DiazJan25. Parce que c'est le 25 janvier que ça a commencé. C'est pas mal sur mes sources d'information.
Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben, ça me fait plaisir. Alors...
En bas à gauche, chronique culturelle.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, c'est l'heure de la chronique culturelle et on va être rejoint par téléphone par Mélissa. Bonjour Mélissa.
Allô.
Alors Mélissa qui est allée pour nous quasiment au théâtre pour voir trois pièces de théâtre, Soleil Barclay qui était un bénéfice pour la Maison Bleue dont tu nous parleras, également Naissance et aussi Beauté, Chaleur et Mort sur le deuil d'un nouveau-né. Alors trois pièces de théâtre sur le thème de la maternité, de la grossesse, trois approches différentes.
Oui, en effet. Bien, en fait, c'est ça, la première pièce, Soleil Barclay, en fait, c'était une lecture qui a été faite de la pièce qui avait été écrite, en fait, dans le cadre vraiment de la Maison Bleue. Bien, pour vous présenter, la Maison Bleue, c'est dans Côte-des-Neiges, puis elles veulent en ouvrir une dans Parc Extension bientôt. Il se nomme Milieu de vie préventif à l'enfance, c'est-à-dire qu'ils font de l'accompagnement vraiment sur tous les aspects aux femmes immigrantes enceintes qui arrivent pour donc pendant la grossesse, l'accouchement et les premières années de l'enfance des enfants. Donc c'est vraiment très large là. Il y a médecins, sages-femmes, infirmières, travailleurs sociaux, éducatrices spécialisées. Il y a des ateliers sur plein de sujets et puis tout l'accompagnement. Puis c'était en fait une lecture bénéfice de la pièce qui a été faite. Cette pièce-là, elle a été faite en fait par dans le cadre là, d'un projet de recherche-action avec des focus groupes vraiment des femmes de la Maison Bleue qui racontaient leur histoire. Puis il y a un auteur de théâtre après ça qui a qui a pris tout ça puis qui a monté la pièce, et c'était les certaines femmes qui avaient participé au focus group et d'autres femmes aussi de la Maison Bleue qui lisaient la pièce. Donc c'était vraiment intéressant, vraiment émouvant là, d'entendre ça, parce que c'était toutes sortes de témoignages différents. Ben je disais femmes immigrantes, c'est surtout des femmes immigrantes, mais c'est aussi d'autres femmes dites en contexte de vulnérabilité, donc seules et sans beaucoup de moyens. Moi, je trouvais que c'était très bon. Puis, si vous voulez en savoir plus sur la Maison Bleue, bon, il y a un site web, pour avoir de l'information sur eux. Puis, juste pour vous citer un peu des passages de la pièce, je veux juste citer quelques phrases qui m'ont particulièrement touchée. Entre autres, à un moment, une des femmes qui dit... Depuis la nuit des temps, les mères accouchent avec leur mère, mais comment devient-on mère quand on est loin de sa mère? Donc, pour faire vraiment référence à l'isolement qui peut être vécu quand tu arrives ici, loin de ta famille, qui peut être en région au Québec, en Abitibi, tu es seule à Montréal, ou dans un autre pays, puis que toi, tu arrives complètement isolé, puis donc ça peut être très difficile de tu sais, tout le... d'apprendre à être mère dans ce contexte-là.
Puis est-ce qu'on peut...
Il était confronté à des difficultés monétaires et d'être seul. Et, bon.
Est-ce que tu sais où on peut trouver le texte de cette pièce?
Je ne sais pas si on peut trouver le texte, peut-être en appelant la Maison Bleue. Puis, en fait, l'auteur, c'est Emmanuel Jiménez. Mais peut-être qu'en appelant la Maison Bleue, c'est possible d'avoir le texte si ça l'intéresse, là, parce que, bon, c'était vraiment intéressé. Le site web, c'est www.maisonbleue.info.
Et alors, l'autre pièce, c'était Naissance.
Oui, Naissance, c'était aussi une pièce bénéfice, cette fois-ci. Bon, ça, c'était spécifiquement sur l'accouchement. Puis, c'était bénéfice pour AVAC Info, qui est un organisme qui s'est créé il n'y a pas si longtemps au Québec comme ressource pour les femmes qui ont accouché par césarienne, afin d'aider les femmes à se réapproprier leur capacité de mettre elles-mêmes au monde leur enfant. L'AVAC, en fait, AVAC, c'est l'accouchement vaginal après césarienne. Donc, elles font la promotion de l'AVAC et dénoncent le recours non nécessaire à la césarienne, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, les taux de césarienne sont très haut, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'elle dénonce, puis qu'elles font la promotion. Puis la pièce Naissance, ça a été écrit par Karen Brody, qui est une femme des États-Unis, qui, en fait, elle aussi a recueilli des témoignages. Elle a fait 135 témoignages de femmes américaines portant sur leur parcours de leur accouchement, qu'elle a recueilli. Puis à partir de ça, elle a monté cette pièce-là, qui a été reprise, en fait, dans beaucoup de pays à travers le monde par des groupes de femmes là, qui militent pour l'humanisation des naissances. Donc, c'était sous forme de 6 témoignages que les femmes racontaient leur accouchement. Puis c'était vraiment assez varié, là. C'était pas pour tu sais, le sens de la pièce ne disait pas, bon, mais il y a une seule manière d'accoucher, là. C'est vraiment, il y a toutes sortes de formes d'accouchement, de besoins et de valeurs de chacune des femmes. Puis c'est ça qu'il faut qu'ils soient respectés, là, que ce soit les femmes elles-mêmes qui décident qu'est-ce qu'elles veulent pour leur accouchement. Donc c'était vraiment, c'était aussi très émouvant et drôle, parce que bon, c'est quand même c'est ça, des moments de la vie qui sont très poignants, là, quand on parle de l'accouchement puis de l'arrivée d'un enfant.
Et en parlant d'émouvant, il y avait donc une troisième pièce, Beauté, chaleur et mort.
Oui, celle-ci, c'était assez particulier parce que, bon, c'était au Théâtre La Chapelle jusqu'à la semaine dernière ça jouait. C'est une pièce qui a été conçue et interprétée par Nini Bélanger et Pascal Bruymens, qui sont en fait un vrai couple dans la vraie vie, qui ont vraiment vécu le deuil de leur enfant qui est mort à quelques jours, il y a 10 ans. Puis, elle est metteur en scène et lui, il est auteur de théâtre. Donc, dans leur démarche, dans leur projet, ils ont décidé de monter une pièce sur le sujet du deuil périnatal. Puis, pour pousser encore plus loin le réalisme, étant donné que c'était leur histoire, ils ont décidé de la jouer eux-mêmes. Puis bon, c'est pas des acteurs professionnels, c'est des gens qui sont quand même dans le milieu, là, mais c'est pas... Donc, c'était vraiment très très réaliste, c'est vraiment très... une espèce de docu-fiction, en quelque sorte, là, parce que c'est sur leur propre histoire. Puis moi, je voyais vraiment dans ça une espèce de démarche, je sais pas, d'expiation, le besoin d'en parler encore 10 ans plus tard, mais aussi le besoin de sensibiliser un peu le public, tu sais, parce qu'ils dénonçaient un peu le... comment que les gens sont pas capables d'en parler après que ça l'arrive. Bon, c'est tellement... qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui a perdu son enfant? C'est fait qu'un peu de... Je pense qu'il voulait comme sensibiliser un peu les gens à être capables de... Que c'est mieux d'en parler puis d'essayer, même si on est maladroit, plutôt que de faire comme si rien qui s'était passé puis comme si tout continue. Donc ça, c'était... oui.
Alors, est-ce que tu veux juste...
Puis aussi, dans mon petit côté politique, là, dans les... surtout dans Beauté, chaleur et mort et naissance, il y avait beaucoup de dénonciations de la médicalisation, de l'accouchement, puis comment que la machine médicale peut comme bouffer les gens qui rentrent dedans, puis que c'est dur quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe, quand c'est des questions médicales devant les professionnels de la santé, les médecins qui sont censés savoir quoi faire de répondre, parce que bon, dans Beauté, chaleur et mort, c'est une erreur médicale qui a causé en fait la mort de l'enfant en quelques jours, là, une opération qui était non nécessaire et en fait qui a aggravé le cas de l'enfant. Et puis bon, ben dans Naissance, ça parlait d'accouchement, donc des accouchements qui sont terminés en césarienne ou qui ont eu beaucoup d'interventions qui étaient pas nécessaires parce que respectaient pas le rythme de la femme et les désirs du couple pour l'accouchement. Donc, c'est beaucoup sur la politique de dénonciation de toute la médicalisation en fait du corps humain, là, puis de voir le corps comme une machine
c'est
qu'on peut
temps,
ériger.
C'est tout le temps qu'on avait malheureusement aujourd'hui, mais on mettra plus d'informations et des références sur le blog. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben, ça me fait plaisir.
Alors, on était avec Mélissa pour nous parler de 3 pièces. Plus d'informations sur le blog de En bas à gauche, www.enbasagauche.wordpress.com. Vous y trouvez toujours après les émissions des références, des événements et le contenu complet des émissions. On en profite d'ailleurs pour faire un anti-hebdo rapide en vous annonçant qu'en fin de semaine, il y a le forum populaire Quelle sécurité, notre sécurité, du réseau de la Commission populaire, donc du 4 au 6 février 2011 à l'Université Concordia au pavillon Hall 1455 Maisonneuve sur internet www.peoplescommission.org. Vous pouvez écouter des entrevues et du contenu sur le sujet sur le blog de En bas à gauche, enbasagauche.wordpress.com. On vous laisse avec le bel âge sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Quelle sécurité? Notre sécurité. L'usage accru par le gouvernement conservateur des concepts de sécurité nationale et de terrorisme afin de justifier la surveillance, la détention arbitraire, la déportation, les coupures dans le financement, l'implication dans la torture et la criminalisation de la dissidence ont réveillé l'intérêt pour établir un réseau s'opposant aux politiques de la dite sécurité nationale. C'est dans cet esprit que le réseau de la Commission populaire organise un forum de réflexion les 4, 5 et 6 février prochains dans le but de mobiliser les communautés affectées et de coordonner nos stratégies de défense. C'est donc un rendez-vous du 4 au 6 février à l'Université Concordia. Entrée libre, repas servi et services de garde offerts sur place. Consultez l'horaire des activités au www.commissionpopulaire.org. www.commissionpopulaire.org.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse?
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Reggae.
L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Reggae Dom,
Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. Les Montréalais et Montréalaises de toute origine échangent sur Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.